problèmes, les échecs. Prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec. Je vais te tirer les cartes et dans ta vie je vois des voyages, des nuages, des orages avec moi. Des voyages, des nuages, des orages avec moi.
Bonsoir Yanis Yuluntas.
Yanis Yuluntas.
Nous sommes à la Maison de la Terre à Poucharamé, à côté de Riom, pour une soirée autour de la Grèce. Vous avez fait une conférence tout à l'heure à 6h. Quel était l'objectif de cette présentation ?
Disons que le but, c'est surtout de parler autrement de la Grèce, parce qu'à travers les mass médias, on a une vision qui est, disons, un peu partielle et partielle également. C'est-à-dire qu'on ne sait qu'une partie des choses. Il se passe beaucoup de choses en Grèce, notamment des solutions alternatives à la crise, et aussi une révolte qu'on ne connaît pas forcément, ainsi qu'un état de famine déjà qui commence à poindre le nez et qui avance vers l'hiver à grands pas, avec des risques énormes de dégradation de la condition humaine là-bas. Et quand on demande plus d'efforts à la Grèce, comme c'est le cas actuellement quand on parle de traités, de pactes budgétaires, il faut savoir que là-bas, ça a des conséquences dramatiques, que pour engraisser les banquiers, on supprime les sandwicheries dans les écoles. Et la conséquence, c'est que les enfants s'évanouissent tellement ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir suffisamment le soir chez leurs parents. Donc il faut faire savoir ça, il faut donner un regard différent sur la Grèce, et de façon à se libérer aussi de ce côté partial qui croit qu'en fait les Grecs ne font pas d'efforts et qu'ils méritent leur sort. En fait, ce qui se passe en Grèce, c'est qu'on vit actuellement une forme de laboratoire de ce qui va s'étendre à l'Europe. Les choses sont de plus en plus claires, sous la houlette de Goldman Sachs et de plein d'autres lobbies de banquiers, et qui s'engraissent sur le monde entier. Hein. Il ne faut pas croire que la Grèce doit de l'argent à la France, c'est complètement faux, ça n'a rien à voir avec ça. La Grèce doit de l'argent à des banquiers, la France doit également de l'argent à des banquiers, et tous les pays du monde ou presque doivent de l'argent à des banquiers. Et c'est le nouveau système du capitalisme financier qui permet cela, et c'est donc le système, le principe de la dette, même en France c'est 91% du PIB, permet de tondre complètement la société et les classes moyennes, comme les classes les plus modestes, qui devraient s'unir pour réagir à cela. Et c'est un message aussi politique, aussi sociologique, historique aussi, que je suis là pour transmettre, puisque j'ai une formation en philosophie et que je m'intéresse de près à ces luttes qui, en Grèce, sont de plus en plus importantes.
Alors, depuis un an ou deux, on entend beaucoup parler de la Grèce. Il y a eu les Jeux Olympiques il y a quelques années, la Grèce a fait partie de l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup pour qu'on se retrouve dans cette situation-là de crise extrême depuis la France? C'est l'image qu'on en a.
Alors, vous avez raison de dire que ça s'est passé très vite et que c'était très surprenant. Il faut bien que les Français se rendent compte que du jour au lendemain, en quelques semaines, nos revenus peuvent chuter de 50% et avec des conséquences dramatiques pour les gens qui ont par exemple un petit endettement sur le logement ou un crédit à la consommation, etc. On sait qu'une part d'emploi, une vie au chômage par exemple, avec des allocations assédiques seulement, ou pire quelquefois, peuvent conduire les gens à se retrouver vraiment très vite à la rue à notre époque. Et les solidarités familiales ne peuvent pas fonctionner comme avant parce qu'il y a trop de monde qui souffre de ce genre de situation. Par conséquent, je laisse à nos auditeurs la réflexion suivante, c'est qu'est-ce qu'ils feraient si ça leur arrivait demain, ce qui vient d'arriver à la Grèce, alors qu'en fait en Grèce, ça fait que 3 ans que ça vient de se produire. Ça allait très très vite. La Grèce, dans les années 90, début des années 2000, avait le niveau de vie de l'Italie quasiment, presque. Surtout la région que moi je connais bien, c'est Athènes, où je vais souvent, où j'ai mon père, j'ai de la famille là-bas. Et je peux vous dire que dans les années, début des années 2000, la Grèce allait très très bien, avait une croissance économique. Moi, je ne crois pas beaucoup à ces choses-là, hein, PIB, tout ça, mais bon, il y avait une hausse du PIB de 4, 5, 6%. C'était vraiment un modèle parmi les petits pays émergents du sud de l'Europe. Et par ailleurs, la Grèce venait gagner de l'euro de foot en 2004. Alors ça peut peut-être faire rire certains, mais disons qu'en Grèce, ça avait été un phénomène. Les gens, ils étaient de bonne humeur, ils étaient optimistes, un peu comme les Français en 98, si fiers de leur équipe Black Blamber. Les Grecs en 2004 aussi avaient organisé, comme vous l'avez dit, les Jeux Olympiques, donc c'était également une forme de prestige pour la Grèce, même si elle n'a pas réussi à obtenir les Jeux Olympiques en 1996, ce qui aurait été logique puisque c'était le centenaire des Jeux Olympiques modernes. Mais bon, Coca-Cola avait choisi, avait acheté très cher les Jeux Olympiques au CIO complètement véreux de Juan Antonio Samaranch, les franquistes, toujours la caste franquiste qui était au pouvoir à ce moment-là dans le CIO. Et la Grèce, il a fallu que les Grecs paient très cher aussi pour avoir droit aux Jeux Olympiques 8 ans plus tard, en comprenant comment il fallait faire pour les obtenir. Et il a fallu aussi payer des surcoûts d'organisation parce que la délégation américaine a demandé une sécurisation extrême de ces infrastructures. Donc ça a été des surcoûts. Un peu comme à Londres récemment, et la conséquence a été un endettement très important de la Grèce. Mais ce n'est pas la seule raison. La principale raison, elle est ailleurs, elle est par rapport à un processus structurel qui est de faire endetter les pays les uns après les autres, de façon à pouvoir les tondre. La dette, c'est un principe qui est né en Europe à l'initiative de quelques pays, dont la France. À l'époque, il s'appelait, le Premier ministre français s'appelait Pompidou. Et durant le début des années 70, après la période gaulienne, on va dire, la période qui a suivi était une période durant laquelle un ancien fondé de pouvoir de Rothschild, hein, puisque c'était le cas de Pompidou, avec tout un lobby, a fait signer une convention selon laquelle les pays ne pouvaient plus, en particulier la France, hein, ne pouvaient plus battre la monnaie de façon indépendante, et surtout le plus important, ne pouvaient pas toutes ces infrastructures, toutes ces administrations ne pouvaient pas s'endetter sur la Banque de France et le crédit de les bases de créditaires de la Banque de France. Voilà. Donc c'était une hétéronomie financière qui était mise en place. Je ne l'ai pas dit avec les très bons termes, parce que moi je suis plus philosophe de formation qu'économiste, mais une hétéronomie financière qui a commencé à cette époque-là. Je renvoie vers les livres, par exemple, de Lordon ou de quelques autres, qui sont excellents sur le sujet, qui sont très clairs. C'est tout à fait vérifiable. Et à partir de là, un endettement croissant du pays et des crises. Alors, on nous dit qu'on est dans la crise, mais excusez-moi, mais moi, la crise, j'ai toujours connu ça. Vous, je crois, vous, votre âge, vous avez toujours connu ça. La plupart des gens aussi. La crise, c'est quelque chose qui appauvrit les pauvres et qui enrichit les riches. Moi, je crois que c'est plutôt une moquerie que de parler de crise aujourd'hui. C'est pas une crise, c'est simplement un processus d'intensification du capitalisme financier qui n'est pas du tout à l'avantage parmi nos auditeurs des gens qui gagnent plutôt bien leur vie aujourd'hui, mais qui risquent demain de souffrir comme les classes populaires de ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est la Grèce. La Grèce est notre passé, mais c'est aussi notre avenir. Je m'en garde ceux qui croient aujourd'hui qu'ils sont à l'abri.
Parce qu'on parle de dette, c'est le mot qui revient tout le temps, la dette de la Grèce, du pays grec, la dette des Grecs aussi, peut-être individuellement, où il y a eu une période de prêt à la consommation qui était super important, je crois.
Oui, dans les années 90, les Grecs ont beaucoup consommé, brutalement, comme les Espagnols d'ailleurs, ils se sont beaucoup endettés.
Et est-ce que c'est la finalité du système, la continuité du système de ce qu'on a en ce moment en France, la suite, c'est la Grèce, c'est dans ce sens-là, c'est l'avenir du système capitaliste européen.
C'est ça, l'étape du capitalisme financier, c'est une étape supplémentaire. C'est plus le capitalisme à la papa, avec le patron, les ouvriers, les employés qui faisaient grève de temps en temps pour demander, pour négocier des aménagements, des hautes augmentations de salaire, des conditions un peu plus décentes d'existence et de travail, par rapport aux accidents de travail par exemple. Là, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. On a créé un dumping social à l'échelle de la planète en jouant sur l'ouverture des frontières, ce qui pour moi n'est pas du tout choquant sur le principe, puisque personnellement je suis universaliste comme la plupart d'entre nous, on est plutôt humaniste, même si on aime la Terre aussi, ça ne s'oppose pas, aimer l'homme, aimer son environnement, etc. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est que l'ouverture des frontières se fasse toujours au bénéfice des mêmes, et que finalement l'orientation du monde, telle qu'on la connaît, c'est une orientation qui est au service d'une forme de seigneurie mondiale. Cette seigneurie, c'est celle des banquiers et de leurs amis, c'est un lobby. Et à la tête de cette seigneurie, il y a des grandes banques d'investissement comme Goldman Sachs, quoi, qui compose quasiment la totalité de l'entourage du président Obama, qui compose la quasi-totalité du gouvernement italien actuel, y compris le Premier ministre. En Espagne, c'est pareil. En Grèce, c'est le cas également en grande partie. On en connaît des noms aussi au nord de l'Europe. Et puis pour finir, le nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne, c'est Mario Draghi, et c'est encore Goldman Sachs. Donc je pense que, sans parler spécialement de Goldman Sachs, mais les banques d'affaires aujourd'hui dans le monde sont quasiment au pouvoir. On vit dans une situation de totalitarisme financier. Un totalitarisme financier, j'ai pas dit un fascisme, bien sûr. Le fascisme, c'est autre chose, même si c'est vrai au niveau de la simplification, de la culture de masse, de l'organisation des masses médias, la communication, la manipulation de l'opinion. C'est vrai que ça peut ressembler à du fascisme, mais ça n'en est pas. On a quand même aussi des libertés, on a quand même la possibilité de communiquer, on a la possibilité d'en parler comme on le fait maintenant. Et ça serait pas le cas sous un système fasciste. Donc je pense pas qu'on soit dans ce cas, même si certains un peu radicaux le disent. Mais par contre, je pense qu'on est clairement dans une situation de totalitarisme financier. Il n'y a aucune issue à cela pour l'instant. On ne peut pas fuir. On pouvait fuir le bloc de l'Est, on pouvait fuir d'autres sociétés un peu dictatoriales. On ne peut pas fuir maintenant ce système du capitalisme financier. D'un bout à l'autre de la planète, il s'est installé. Il faut vraiment que s'unissent les peuples pour remettre en question cette situation. Et il faut prendre exemple sur ce qui se passe en Grèce pour comprendre ce qui risque de nous arriver.
Et on parle de la Grèce comme le berceau de la démocratie. Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie face à l'hégémonie, l'ingérence européenne et des groupes financiers sur les finances du pays, sur les orientations budgétaires?
Moi, je suis donc philosophe de formation. Donc, en fait, la démocratie, c'est un problème d'échelle qui se pose essentiellement. C'est-à-dire que la démocratie grecque était bien qu'imparfaite parce qu'elle n'incluait pas les femmes et les étrangers, donc les métèques, les esclaves, et ceux qui ne payaient pas d'impôts aussi. Néanmoins, c'était d'abord la première, donc c'était déjà, on peut le reconnaître quand même, de grande qualité, mais elle utilisait aussi des mandats impératifs, des tirages au sort, partiellement bien sûr. Et c'était une démocratie relativement directe, on va dire, et qui limitait aussi le mandat au niveau de la durée, souvent renouvelable qu'une fois, limité à un an. Et pareil pour les fonctionnaires, hein, tirage au sort souvent. Donc c'était quelque chose. La démocratie pour la Grèce antique, c'est d'abord la démocratie directe. C'est une assemblée qui est relativement limitée en nombre, donc c'est possible. Et aujourd'hui, avec les grandes échelles de population, sous prétexte des grandes échelles de population, devrais-je dire, eh bien, la démocratie, elle devient représentative, forcément. Et dès qu'elle devient représentative, à mon avis, il y a un problème de délégation du pouvoir. C'est que par définition, kratos, c'est le pouvoir, demos, c'est le peuple. Par définition, si le peuple délègue le pouvoir, il n'a plus le pouvoir, donc on n'est plus en démocratie. Pour moi, la démocratie représentative n'est pas la démocratie. La seule démocratie, c'est la démocratie directe. Mais seulement, le problème, c'est qu'elle ne peut pas s'organiser facilement vu les échelles de population. Donc il faut trouver d'autres modulations, ce qui voudrait dire en quelque sorte qu'on devrait limiter tout ce qui se délègue à la stricte nécessité et choisir localement ce qui se fait sans avoir à subir une subsidiarité quelconque. Voilà, c'est ça qui devrait permettre de moduler la démocratie de façon à ce que la démocratie locale permette d'avoir une part suffisante de démocratie directe dans le système de démocratique d'un pays ou d'une entité internationale, même s'il le faut, puisque demain, peut-être que la mondialisation va amener une géopolitique tout à fait différente, avec des échelles de pouvoir, comme on le voit déjà en Europe, qui sont extrêmement, extrêmement élevées, quoi. C'est au niveau européen qui décide beaucoup de choses, et les États ont moins leur mot à dire qu'autrefois. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans le monde, avec les organisations mondiales de la santé, du commerce, etc. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a un danger de déléguer trop de pouvoir et de tomber dans une forme de subsidiarité abusive, c'est-à-dire accepter, en quelque sorte, d'avoir un cadre de liberté extrêmement réduit à cause de toutes les obligations bureaucratiques, technocratiques qui se produisent, qui nous viennent des décideurs, quoi, qu'ils soient des experts, qu'ils soient des politiques.
C'est ce qui arrive avec ces grandes organisations où il n'y a personne d'élu dans l'OMC, par exemple.
Par exemple, tout à fait. Élu. Tout à fait. Et les gens ne sont pas élus, voilà. Et derrière ça, on le retrouve à tous les niveaux. Il suffit de regarder autour de soi, hein, au-delà du débat, de la vérification des données que je peux proposer ici, y compris par rapport à la Grèce. Il suffit de vérifier la façon dont évolue la démocratie locale. On voit de plus en plus des communautés de communes, des agglomérations, etc., avec des personnes qui ne sont pas élues, ou alors de façon très indirecte. C'est même plus le cas des sénateurs, quoi. C'est des élections indirectes à 2, 3, 4, 5 degrés. Un éloignement de la représentation populaire qui fait qu'on n'est plus du tout dans la démocratie locale.
C'est des élus, d'élus, d'élus. Quoi.
Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et la technocratie, c'est la même chose. La technocratie, c'est le fait que des spécialistes, des experts sur certains sujets décident à la place des populations. parce que les populations ne seraient pas capables de prendre la bonne décision. Par exemple, récemment, dans les années 2000, on a connu l'époque des OGM avec 86% de la population française qui était contre. Mais les technocrates, les experts nous disaient si oui ou non il fallait ou pas se méfier des OGM et donc pouvoir faire des cultures plein champ sans risque. Voilà. Et il y a des Français qui se sont opposés, des obéissances civiles. Ils ont été dans l'illégalité, mais ils étaient dans la légitimité par rapport au principe même de la démocratie qui est que bon, il faut écouter quand même la majorité de la population quand elle est aussi importante et qu'elle argumente en plus ses points de vue.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment est la vie en Grèce en ce moment ? Est-ce que il y a encore des banques ? On a encore les gens ont encore des comptes bancaires ? Ils ont encore des factures ? Ils ont encore
alors les gens ont retiré beaucoup d'argent des banques parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir les retirer bientôt. Il y avait des gens qui avaient investi dans la pierre et ils ont eu tort parce que la pierre a perdu toute sa valeur. Vous savez, quand il y a une crise, qu'elle est modérée, la pierre ça a une valeur refuge. Mais dès que la crise est grave, ce n'est plus du tout une valeur refuge parce que les gens, ils fuient, ils n'ont plus de moyens. La pierre, le logement, je veux dire le logement. Les gens investissent sur le logement, ils achètent un petit appartement, un petit studio avec les petites économies qu'ils avaient sur les livrets, tout ça, ou même pourquoi pas un SICAV ou autre chose. Et ils se disent, au moins, il n'y a pas de risque de krach boursier. Oui, mais si les gens sont trop endettés, si la crise est trop grave, eh bien, ils ne pourront pas payer un loyer. Donc du coup, on revient dans la même situation. Donc aujourd'hui, les Grecs, qu'est-ce qu'ils font ? Concrètement, ceux qui ont un petit peu d'argent, ils achètent de l'or, des valeurs précieuses, parce qu'ils savent qu'en cas de... En cas de crise très grave, et si c'est une crise endémique qui est plus importante au niveau géopolitique, qui devient peut-être pourquoi pas planétaire, et bien les valeurs refuges deviendront, dans ce cas-là, les matières précieuses en premier lieu, parce que c'est traditionnel, quoi. D'ailleurs, l'or, si vous regardez la courbe de l'or, il a beaucoup augmenté depuis quelques temps. C'est parce que justement, beaucoup de gens savent ou comprennent que la crise, la pseudo-crise n'est pas finie, que les choses vont aller vers des temps... maudit, des temps beaucoup plus graves, des temps crépusculaires. Quoi. Je pense que là, on s'attend pas du tout à ce qui nous pend au nez. Et je pense que ce qui se passe en Grèce, vraiment, va s'étendre à toute l'Europe. C'est un continent entier, un vieux continent, qui était le dernier verrou d'un système social, le dernier modèle d'un système social qui, bien qu'imparfait, était gênant pour les nouveaux maîtres du monde. Et ce continent va être à genoux dans quelques années, je pense, ouais, vraiment. Et je vois ce qui se passe en Grèce, ça peut aller vraiment très vite. Ne croyez pas que les Grecs étaient si faibles que ça. Les Grecs avaient beaucoup de savoir-faire. C'est aussi un peuple qui est très habitué à la résistance. J'en ai parlé dans la conférence tout à l'heure. La Grèce a connu beaucoup d'hétéronomie politique, donc de nécessité de répondre à l'oppression venue de l'extérieur, mais aussi quelquefois de l'intérieur. C'est un peuple qui vraiment a été éduqué à la résistance et au voyage aussi, à l'immigration, c'est-à-dire à l'exil vers la diaspora, bien souvent malheureusement parce que le contexte politique ou social ou économique était trop difficile. Mais donc c'est pas n'importe quel peuple qui a été éprouvé en termes de laboratoire pour préparer l'extension à toute l'Europe. C'est vraiment un peuple qui est un peuple très résistant, quoi. Un peuple qui ne se laisse pas faire, un peuple qui ne supporte pas les tickets de caisse, la bureaucratie, les obligations, les petites règles de ci, de là, et qui aime beaucoup l'autogestion. C'est un peuple qui... Voilà, parce qu'on croit beaucoup que le Grec se débrouille de façon individualiste pour vivre comme il peut. Et c'est plus compliqué que ça. Les Grecs sont aussi des gens qui pratiquent aussi un peu l'autogestion, qui font du réseau local, qui sont proches des paysans, qui échangent, qui ont des liens familiaux assez forts aussi. Donc ça permet, quand on a des petites retraites, etc., de vivre auprès de la famille, de continuer à faire des petits boulots, des petites choses. Donc il y a du lien. Et tout ça, c'était donc une société qui n'était pas forcément la plus facile à convertir. Et pourtant, ça a été le cas. On a converti la Grèce à une forme d'esclavage postmoderne dans laquelle on nous prépare tous le chemin.
Tout à l'heure, tu as employé le terme de famine. Les gens meurent de faim en Grèce ?
Ils ne meurent pas tous de faim. Et actuellement, on ne peut pas vraiment dire les choses tout à fait comme ça. Mais il y a des enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avéré, hein, qui s'évanouissent dans beaucoup d'écoles parce qu'on a supprimé les sandwicheries qui prévalaient à 11h du matin, etc. Il n'y a plus la générosité de l'État comme autrefois, sous prétexte d'engraisser les banquiers. Par contre, pour cet hiver, après les soupes populaires de l'année passée qui venaient de trois formes d'organismes, c'était la mairie d'Athènes, une mairie d'Athènes qui pourtant ne veut pas entendre parler de mise en place de minima sociaux, d'aide au logement, etc. Mairie d'Athènes qui, sur beaucoup de plans, est très critiquable, il me semble. Donc mairie d'Athènes qui quand même a la bonté de faire quelques soupes populaires pour lesquelles il y a une queue gigantesque. L'hiver dernier, c'était impressionnant. ce populaire aussi d'Aube Dorée, là c'est pareil, je veux pas dire, on va pas remercier quand même les néo-nazis pour autant d'infrastructures dans les rues d'Athènes au service de la population.
C'est le parti fasciste.
C'est le parti nazi, hein, quasiment néo-nazi, hein, c'est un des symboles nazis, ils vendent Mein Kampf dans les réunions. Ils vendent Mein Kampf dans les réunions, je veux dire, c'est pire que le Front National, quoi.
C'est ouvertement nazi.
Ouais, voilà. Et donc ce parti a beaucoup de moyens, mais surtout beaucoup de moyens dans la propagande par la soupe populaire et par l'aide aux populations sur la sécurité civile, etc. Et donc, même sur la sécurité sociale, parce que la soupe populaire, ça revient à ça. Et donc, c'est l'autre catégorie de soupe populaire qui est très fréquente à Athènes. La troisième catégorie, c'est l'église orthodoxe grecque. Là aussi, on est toujours avec des paradoxes et des contradictions. L'église orthodoxe grecque, elle ne veut pas entendre parler de payer des impôts fonciers. Elle continue d'avoir tous ses employés qui sont payés par l'État, un peu comme en France, en Alsace-Moselle. Et donc, dans ce contexte-là, les popes se pavanent à être gentils, à proposer à manger aux populations dans des queues incroyables encore. Mais en réalité, ils ne sont pas du tout solidaires des populations par le fait même qu'ils ne participent pas à l'effort commun. Donc ça, c'est la situation concrète. Et tout ça, ça ne suffira pas, disent les associations humanitaires, pour l'hiver prochain. L'hiver 2012-2013 sera catastrophique. Voilà. On le sait déjà parce qu'on voit très bien, par exemple, le nombre de personnes qui sont au chômage actuellement, l'augmentation est exponentielle. Là, au jour où nous faisons cette interview, c'est fin septembre, il y a plein de gens qui perdent leur emploi dans le tourisme, puisque c'est un des domaines principaux en Grèce d'activité, et bien sûr, ils fonctionnent plus l'été et en demi-saison. Il y a également beaucoup de saisonniers de l'agriculture, là c'est pareil, hein, ils commencent à perdre leur emploi, et là on tend vers un hiver qui va être plus dur que jamais.
Qu'en est-il des services publics comme les hôpitaux et
il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé. Quelquefois, ils ont été repris par des systèmes autogestionnaires. Le résultat est assez intéressant, mais décevant par rapport, disons, à la structure elle-même. Quoi. Ça ne permet que de faire un peu de bénévolat et d'assurer un peu d'urgence, mais ce n'est pas suffisant pour remplacer ce qui existait auparavant. Et dans beaucoup de domaines, les fonctionnaires ils souffrent autant que les autres et ils ont des salaires qui ont baissé à peu près de 50% en tout. Les juges, par exemple, viennent d'avoir une nouvelle baisse de salaire. Les juges sont à moins 50%. Et là, la dernière retrouvaille du gouvernement Samaras, qui a décidé d'arrêter de poursuivre les Grecs très riches qui mettent leur argent en Suisse, hein, ça il faut le savoir. Et on ne poursuit plus les Grecs qui mettent leur argent en Suisse depuis le 17 septembre. Et par ailleurs, on n'embête pas le clergé orthodoxe, comme je viens de vous le dire, et on n'embête pas non plus les plus fortunés qui sont les armateurs en Grèce, puisque la marine marchande grecque est la plus grande marine marchande du monde en pavillon réel, je veux dire réel, hein, pas les pavillons de complaisance. Donc on sait où est l'argent, mais on ne va pas le chercher. Mais excusez-moi, mais en France, est-ce qu'on va chercher l'argent total, 10 milliards d'euros de bénéfices? Est-ce qu'on les oblige à payer pour AZF, à part un lampiste, un fusible, un directeur d'usine qu'on condamne? Total ne paie rien. Et je vais plus loin, Madame Bézancourt, elle n'est pas armateur que je sache, mais elle ne paie pas d'impôts et elle a droit à même à 65 millions d'euros de crédit d'impôt. Donc voilà, c'est la France, donc la France a donné de leçons à la Grèce. Et en termes de surendettement, on est à 91% du PIB. Il ne faut pas croire qu'on soit bien loti. Je pense que ça nous prend au nez d'arriver à la même situation. Surtout que les crédits à la consommation au niveau des particuliers en France sont très élevés aussi. Les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Et surtout, ce n'est pas pour dire qu'ils exagèrent, qu'ils ne bossent pas assez, etc. Je ne dirais pas ça du tout, au contraire même. Je pense qu'il faudrait qu'ils apprennent à faire un pas de côté, à réfléchir, et ça ne serait pas triste. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils consomment trop. Si vous voulez vous libérer, auditeurs, commencez par remettre en question votre façon de consommer. Parce que vous êtes votre premier geôlier. C'est vous le gardien de votre prison. C'est vous votre propre banquier qui vous tenez vous-même à la gorge. Et si vous vivez autrement, pour commencer à vivre autrement, peut-être qu'il faut justement écouter des médias alternatifs, comme cette radio. Il faut peut-être se libérer de la télévision, envisager éventuellement de la décrocher de sa stèle et peut-être pourquoi pas enlever le tube cathodique et mettre un coussin pour le chat dedans ou mettre des livres, l'accrocher au mur, cette télévision, osez, faites le pas un certain temps. Et bien faites l'expérience, je vous assure que ça peut être très intéressant et surtout ce que vous remarquerez c'est que non seulement vous aurez beaucoup plus de temps pour vivre et partager la vie avec les gens qui éventuellement sont sous votre toit ou vos voisins ou vos amis, mais en plus vous vous rendrez compte que vous consommerez beaucoup moins. Parce qu'on a beau croire les uns et les autres qu'on n'est pas très dépendant de la publicité, que c'est toujours pour les autres. Néanmoins, dès qu'on vit sans la télévision, ou sans certaines formes de pression, quand on n'accepte pas la pub dans sa boîte aux lettres, etc., et bien, dès lors, on sent vraiment une pression qui est tout à fait différente et on a moins besoin d'aller au supermarché ou ailleurs pour en gros s'encombrer de choses qui nous permettent de ne pas voir le vide dans lequel nous sommes, cette vacuité de l'existence qui n'est pas malsaine, puisque là, permettez-moi le petit moment de philosophie, mais qui au contraire nous permet de nous rappeler qu'on est vraiment vivant, vraiment libre, ce vide intérieur qui est la preuve de la liberté, qui nous montre qu'on a tant de choses à vivre, à être et à faire.
Ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη.